Donc, je suis venu avec ma femme Virginia, mais aussi Christophe, qui est un de mes meilleurs amis de l'église. Et ensemble, en fait, on fait partie de l'équipe dirigeante de Bruxelles. Donc, on dirige en équipe, et moi, je suis le coordinateur de l'équipe, mais c'est vraiment l'équipe qui dirige l'église. Ça va? Donc, ça, c'est les présentations. Et je voulais demander à ma femme de partager quelque chose, parce qu'elle avait reçu quelque chose pour vous. Et je pense que ça va bien avec mon message. Ouais.
Oui, bonjour. Oui, donc quand j'ai prié pour vous, quand Stéphane m'a dit nous allons venir, et en fait, le verset que Dieu m'a donné, c'est Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes amis et mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Dieu m'a vraiment dit, en fait, votre amour les uns pour les autres, c'est votre carte de visite. Donc, c'est le défi et c'est ma prière pour vous aujourd'hui que, oui, que cet amour les uns pour les autres soit cultivé.
Amen. Amen. Vous m'entendez là? Bien? Très bien. Super. Je vois que c'est une salle assez large, donc je vais essayer de vous regarder tous, mais si je ne regarde pas le fond, je suis vraiment désolé. J'ai pas l'habitude de faire vraiment tout un éventail comme ça va? Mais bon, je vais essayer, ça va? Ben, en fait, Virginia, on n'a pas discuté avec Virginia, mais hier, elle m'a partagé ce qu'elle avait sur le cœur pour vous. Et quand moi, je priais, en fait, pour vous, il y a quelques semaines, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dire ce matin, j'avais reçu de sa part, en fait, le sujet suivant. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Et je me suis dit, ouais, vraiment, Seigneur, tu veux que je vienne 1h15 dans le sud pour partager quelque chose de basse comme ça, aimez-vous les uns les autres? Je me suis un peu battu avec le Seigneur et puis il m'a dit, non, c'est ce que je veux que tu partages. Donc c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur pour vous ce matin. Et comme Bruno l'a dit avec Maryse, ma femme, moi et aussi d'autres personnes, on fait le parcours Church Renewal, donc qui est vraiment le renouvellement de l'Église en français. Et je ne sais pas à quoi vous pensez quand on parle, ou pensiez, quand on parle de renouvellement de l'Église. Mais en tout cas, moi, avant de faire ce parcours Church Renewal, j'avais dans l'idée renouvellement de l'Église, des grandes soirées le soir, avec beaucoup de personnes, avec des miracles, avec beaucoup de louanges jusque toute la nuit, etc. Avec des conversions, en fait, par milliers. Et un peu comme Azusa Street, je ne sais pas si vous avez entendu parler au début du XXe siècle, je pense que c'était un peu plus de 100 ans maintenant, où il y a eu vraiment des soirées pendant toute la nuit. Ou bien comme Billy Graham, si vous connaissez Billy Graham, dans les stades, avec 50 000 personnes et la moitié du stade qui s'avance. Donc c'est ça que j'avais en tête quand on pensait renouvellement de l'Église. Mais ce que j'ai appris dans la dernière année, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça le renouvellement de l'Église. C'est bien ça. Mais un renouvellement de l'Église durable, en fait, c'est un peu différent. Et ça commence en fait par nous. Et ça demande du temps. D'abord pour se renouveler nous-mêmes en tant que dirigeants, et puis alors pour renouveler l'Église aussi. Donc ça prend aussi du temps de se renouveler tout en Église, et vraiment pour faire grandir notre amour pour le Père et faire grandir en fait l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et quand on fait grandir l'amour qu'on a les uns pour les autres, naturellement, on va faire grandir l'amour qu'on a pour les brebis perdues qui sont autour de nous. Et quand on fait grandir l'amour qu'on a pour les brebis perdues autour de nous, on va partager la bonne nouvelle, on va prier pour les gens. Et Dieu peut nous utiliser pour faire des miracles et des guérisons dans des familles qu'ils ne connaissent pas encore. Et puis alors, on peut impacter notre région. Donc j'aime bien votre vision là. L'idée de former des disciples, implanter des groupes, impacter la région. Je pense que c'est vraiment cela le renouvellement de l'Église. Et quand on impacte notre région, après, on peut impacter notre pays. Et une fois qu'on impacte notre pays, on impacte les pays voisins. Et là, je suis très content, parce que votre pays voisin, c'est la Belgique. Et en Belgique, on a besoin en fait de personnes aussi pour venir impacter en fait le sud de la Belgique, le Hainaut, la province de Namur, la province de Luxembourg. Vous êtes dans le Hainaut, ouais, très bien. Donc, je sais que si l'Église de Bon Dieu est complètement renouvelée, la Belgique va en profiter aussi. Ça va? Ça va être chouette. Ça va être chouette. Et une autre chose qui est certaine et que Dieu m'a mis sur le cœur dernièrement, c'est que si je veux voir Dieu agir à travers mes mains, en termes de miracles, de guérison, de conversion, en fait, je dois d'abord faire grandir ma compassion pour les brebis perdues et pour les personnes qui m'entourent. Pourquoi ? En fait, c'est très simple. C'est très simple. C'est la compassion, en fait, de Jésus pour les personnes qui étaient autour de lui qui l'a poussé à faire des miracles et faire des guérisons. C'est vraiment sa compassion qui a poussé ça. J'ai juste deux passages. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Hein? Attends. Voilà. Trouver le bon mouton, c'est fait. Alors, j'ai juste deux passages, en fait, dans Matthieu 14, 14, on lit ceci. Moi, j'utilise la Bible du Sommeur, je ne sais pas ce que vous utilisez comme... mais c'est ce qu'on utilise chez nous. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse, alors il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Et en Matthieu 15, 32, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là avec moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. » Et après, bien sûr, il nourrit ces 5000 personnes avec 12 pains, 3 poissons, enfin je sais plus, quelque chose comme ça. Et on voit clairement en fait la compassion de notre Seigneur pour les foules dans ces deux passages. Et c'est ça qui l'a poussé à faire l'acte de miracle, enfin le miracle et les guérisons. Et Jésus en fait n'a pas dit à ses disciples, « Ah, vous allez voir, je vais faire un grand miracle. » Et puis après, on va voir plein de gens convertis. Vous allez voir comme je suis génial. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça du tout. C'était vraiment l'amour qu'il avait pour les personnes autour de lui qui l'a poussé à faire le miracle et les guérisons. Et je pense que Dieu nous appelle à avoir la même motivation. Oui, c'est bien de penser pour miracle, guérison, mais ce qui doit nous pousser en fait à faire des miracles, guérison, c'est la compassion qu'on a pour les gens autour de nous et l'amour pour les gens qu'on a autour de nous. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Ok, donc avec cela en tête, ce matin, j'aimerais bien, enfin, je suis un ingénieur, donc j'aime bien les graphiques, désolé. donc je vous ai fait un petit graphique, que moi j'appelle la spirale virtueuse du renouvellement ensemble. Donc si on commence au centre, on a demeuré en Jésus. Donc la première chose en fait, action dans cette spirale, c'est de demeurer en Jésus, c'est vraiment ça qui fait grandir l'amour qu'on a pour lui, quand on passe du temps avec lui, quand on prend notre temps de dévotion. Et puis alors, à son tour, ça augmente, en fait, quand on aime Jésus, en fait, on est plus enclin à lui obéir, parce qu'on l'aime, donc on lui obéit. Et notre obéissance fait grandir, en fait, l'amour qu'on a les uns pour les autres dans l'Église. Donc ça, c'est le deuxième, l'amour pour l'Église. Et puis alors, quand notre amour pour l'Église grandit, en fait, notre amour pour les perdus aussi grandit. Et quand notre amour pour les perdus grandit, comme j'expliquais, ben, on va vouloir prier pour les gens, on va vouloir partager la bonne nouvelle avec eux, et puis Dieu peut nous utiliser pour faire des miracles et des guérisons, parce qu'on est prêt. Et puis alors après, quand on commence à avoir en fait des miracles et des guérisons à l'annonce de la bonne nouvelle, ben, Dieu rajoute des personnes à notre nombre. Donc on a des conversions, une église renouvelée, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Le royaume de Dieu grandit dans la région. Et on voit en fait l'impact du royaume de Dieu dans la région. Et qu'est-ce qui se passe après ? Ben, on recommence. Ces gens qui sont venus vers nous, on leur apprend à demeurer en Jésus. Et à leur tour, en fait, ils vont faire la même chose que nous. Vous voyez un peu la spirale vertueuse ? Bon, ça c'était juste quelque chose, graphique. Moi, j'étais content avec ce graphique, en fait. mais bon, on est quand même ici dans une église. J'espère et je pense que Bruno et Maryse et leur équipe d'enseignement vous a dit... Il ne faut pas croire juste les beaux graphiques, il faut regarder ce qui fait écrit dans la parole de Dieu. Donc on va ouvrir la parole de Dieu ce matin, ça va ? J'aimerais bien qu'on se tourne vers Jean 15. On va d'abord en fait lire les versets 12 à 17. Je les ai ici, dans la version du Sommeur. Et là-dedans, dans l'évangile de Jean, on est vraiment à un moment où Jésus faisait une série d'enseignements à ses disciples. Dans Jean 14, il vient de leur parler, en fait, de son départ imminent, du fait que Jésus allait partir et rejoindre le Père, et de la venue du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il appelle le Saint-Esprit comme ceci. C'est le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Jésus a annoncé à ses disciples, je vais partir, mais le Saint-Esprit va revenir. Alors lisons le passage ensemble. Je ne sais pas si vous avez tous vos Bibles ou bien sur... sinon, on peut le lire là au-dessus, je l'ai mis, donc ça c'est bien. Alors, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Bon, il y a des passages dans la Bible qui ne sont pas 100% clairs, qui sont difficiles à comprendre, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ce passage est 100% clair. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Et on sait très bien, en fait, que quelques jours plus tard, il nous a aimés jusqu'à sacrifier sa vie, en fait, pour ses disciples. Il les a aimés jusqu'à sacrifier sa vie pour nous. Et ça, c'est ce qu'on s'est rappelé en prenant le pain et le vin ensemble. Alors clairement, il demande à ses disciples, êtes-vous prêts à vous aimer les uns les autres jusqu'à donner votre vie les uns pour les autres? Alors ça m'a fait penser un petit peu à la série qu'on regarde pour l'instant. On regarde The Chosen. Pour l'instant, vous connaissez The Chosen, la série qui est passée sur C8 en France, donc c'était chouette. Et j'ai directement pensé à ça parce que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, en regardant cette série, ouais, Jésus, t'as choisi vraiment une fine équipe. Hein, quand on voit en fait son équipe qu'il avait choisie dans ses disciples, on a un collecteur de taxes, des pêcheurs de poissons, un commerçant, un architecte, un zélote, une ancienne prostituée. Waouh, c'était waouh. Je sais pas si j'aurais choisi cette équipe-là moi aujourd'hui, mais je trouve que les producteurs de la série ont vraiment bien essayer de faire transparaître la dynamique de groupe dans ses disciples. Et quand je pense à ce que Jésus a dit ici, moi je vois directement en fait la tête de Pierre. Vous avez Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres » et puis je vois la tête de Pierre qui est en train de regarder Matthieu. « Quoi, tu veux vraiment que j'aime en fait ce collecteur de taxes qui voulait me mettre en prison? T'es sûr quoi? Vraiment quoi ?» Ça me fait vraiment penser à ça. Mais peut-être pour que ça nous parle un peu plus à nous ce matin, imaginons en fait que Jésus est présent ici ce matin et qu'il nous dise « Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » En fait, je peux nous imaginer tous faire le tour de la salle, regarder un petit peu autour de nous, en tout cas moi je m'imagine moi faire ça dans mon église, et je regarde. Et ensuite je tombe sur un bon ami. Ah oui, lui, il n'y a pas de problème. Je peux donner ma vie pour lui. Je suis vraiment très content. Je sais qu'il fera de même pour moi. Puis ensuite, encore plus facile, on tombe sur sa femme ou ses enfants. On se dit, bah oui, c'est la chair de ma chair. Je vais donner en fait ma vie pour la chair de ma chair. Et puis, tout d'un coup, désolé si je regarde quelqu'un, je ne sais pas pour vous viser. On tombe en fait sur cette personne qui n'arrête pas de vous ennuyer, qui n'est jamais d'accord avec vous. Vous essayez de faire quelque chose, mais elle n'est jamais d'accord. Et vous dites, oh, là c'est un peu plus difficile Jésus, est-ce que je voudrais vraiment donner ma vie pour cette personne? Et puis encore un peu plus dur, on tombe sur cette personne en fait qui nous a fait du mal. Parce que ça arrive dans les églises, on est des êtres humains, de temps en temps il y a des choses qui se passent et ça nous fait du mal. Et il y a quelque chose qui nous touche au cœur, parfois pas en exprès. Et puis alors on se dit, oui Jésus, tu as vraiment envie que j'aime cette personne? Ça, c'est le niveau 4. Mais après, il y a le niveau 5, parce que ça, c'est la personne qui nous a fait du mal sans le faire exprès. Et puis, on a la personne, en fait, qui nous a fait du mal justement ce matin en nous faisant une remarque vraiment désobligeante et qui était injuste. Et alors là, on se dit, mais non, Jésus, je ne peux pas l'aimer ce matin. Mais Jésus nous dit, si, tu dois aimer, en fait, cette personne. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Ça semble difficile, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ouais, ça semble difficile. Mais comment se faire pour s'aimer les uns les autres? Parce que, en fait, de nous-mêmes, c'est impossible. Et Jésus le savait. Et c'est pour ça, en fait, que ce commandement-là, il l'a dit au verset 12. Mais avant le verset 12, il y a le verset 1 à 11. Et c'est là que Jésus, en fait, nous révèle comment on peut s'aimer les uns les autres, malgré, en fait, toutes les difficultés. Donc, lisons les versets 1 à 11. Voilà, Jean 15, 1 à 11. Je vais vous les lire. Moi, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Il se dessèche, puis on les ramasse. On y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez ainsi prouver ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie s'en complète. J'adore ces versets. J'adore ces versets. Je trouve que cette image, en fait, du cep et des sarments est tellement parlante. En fait, vous devez savoir, ma région favorite de France, ce n'est pas les Hauts-de-France, désolé, mais c'est l'Alsace. J'adore l'Alsace. On adore l'Alsace avec ma femme. On aime bien aller en Alsace. Et c'est ma région préférée. Et quand j'ai été là-bas, juste avant la moisson, on voit en fait les cèpes remplis de fruits. C'est juste impressionnant le nombre de fruits qu'il y a en fait sur une vigne. Et quand on y pense, en fait, c'est une graine qui a donné ce cep. Une graine qui porte autant de fruits. Là, je trouve ça vraiment magnifique. Et une des raisons, en fait, pourquoi j'adore le parcours Church Renewal, c'est parce qu'on commence là. On commence, en fait, la première année, c'est demeurer en Jésus. Apprendre, en fait, à passer du temps avec lui et écouter sa voix. Et pour moi, ça a changé ma vie. Oui, j'avais déjà entendu, en fait, avant, c'est important de passer du temps avec Jésus, et j'essayais de le faire. Mais je ne l'avais jamais vraiment mis en pratique autant, en fait, que cette année. Et ces derniers 12 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, je vois que Dieu a augmenté mon amour pour l'Église, même en fait les personnes difficiles à l'Église. Et ça a aussi augmenté mon amour pour les perdus. J'ai beaucoup plus envie, en fait, de partager la bonne nouvelle avec les gens autour de moi aujourd'hui qu'il y a un an. Et je dois vous avouer, en plus, que Jésus, dans le verset 11, il parle de la joie. J'ai l'impression d'avoir plus de joie aussi en faisant ça. Et j'ai changé, vous pourrez demander à ma femme, à Christophe, à mes enfants qui sont là, j'ai changé un petit peu quand même en un an, j'espère. Vous pourrez leur demander, parce que c'est eux quand même qui me voient le plus souvent, ça c'est sûr. Donc, Jésus avait bien compris qu'on ne pouvait pas obéir à son commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, sans être fermement enraciné en lui, sans demeurer en fait en Jésus. Et je ne sais pas, en fait, quels sont tes plans, Bruno et Marie, vos plans à propos de commencer le parcours demeurer en lui. Mais en tout cas, si vous le commencez, vous allez le commencer bientôt, normalement, ou c'est peut-être déjà fait. Mais je vous encourage à aller les retrouver. Ça se fait toujours plaisir quand on a des personnes de l'église qui disent, moi, j'ai envie de faire ça aussi, quoi. Ça, c'est clair. Ça va? Parce que vous allez vraiment passer un bon moment là-dedans, et apprendre de nouvelles choses. Bon, peut-être qu'il serait bon maintenant de donner quelques exemples pratiques de ce que c'est, je vais appeler Christophe à venir ici, de ce que c'est en fait s'aimer les uns les autres. Car cela, ça peut nous aider d'ancrer en fait les choses dans le pratique. Et si je connais quelqu'un qui est vraiment dans l'amour pratique, c'est Christophe. Je le vois en fait tous les jours aider la plupart des gens et aimer les gens, donc je vous invite à l'écouter, il va nous donner quelques exemples pratiques sur l'amour les uns pour les autres. Ça va?
Merci Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être ici. Et quand Stéphane m'a invité il y a quelques semaines pour l'accompagner, j'étais vraiment enthousiaste à l'occasion de rencontrer de nouveaux frères et sœurs en Christ. Alors, je ne suis certainement pas un expert dans l'amour pour les autres. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est la puissance des témoignages, en fait. C'est les témoignages qui nous encouragent et qui nous édifient. Et donc, moi, mon espoir, mon souhait ce matin, c'est que les quelques témoignages pratiques que je peux vous donner vont vous encourager à pratiquer l'amour les uns pour les autres de plus en plus, malgré les défis qui vont se présenter. Alors, pour donner un peu le cadre pour les témoignages, je vais commencer par lire quelques versets. Dans Matthieu 25, l'évangile de Matthieu 25, les versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et avons-nous donné à manger, ou assoiffé et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli, ou nu et avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est vraiment des versets qui m'ont défié. Et donc, je vais vous partager un peu le cheminement en prenant des exemples concrets sur quatre sphères de ma vie et certainement de vos vies aussi. Alors, la première sphère de nos vies, c'est nos voisins. Ce sont les plus proches, en fait. Et donc, il y a quelques années, j'habitais encore dans mon ancien appartement, il y a une nouvelle voisine qui a aménagé, et au moment où elle arrivait, en train de s'installer, pour ramener un canapé, pour ramener le canapé au premier étage, par hasard, bien sûr, on n'y a jamais de hasard avec Dieu, j'arrivais à ce moment-là. Donc je les ai aidés, et cette aide, et la manière dont ça a été fait, ça l'a touchée. Donc elle est venue avec ses deux filles, dont la plus petite était vraiment mal en point, souffre encore de la mucoviscidose. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui, mais ça l'a touchée. Et puis, dès que j'avais besoin d'aide, elle n'hésitait pas à apporter cette aide. Donc les voisins, c'est les personnes qui sont physiquement les plus proches, et on peut les toucher très facilement. Et c'est une porte d'entrée ouverte idéale pour partager notre foi. C'est d'autant plus efficace que ces personnes-là ont vu notre cœur à l'œuvre. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc cette voisine avec ses enfants est venue quelques fois à l'église, est venue à un de nos week-ends d'église, et on continue à être en contact. Alors la deuxième sphère, c'est le travail. Alors, s'aimer les uns les autres, sauf si on est dans le domaine social, ça paraît assez éloigné du milieu professionnel, à première vue. Mais ce que mon expérience m'a appris, c'est que les valeurs qui sont transmises et surtout mises en pratique sont souvent plus importantes que la rémunération ou d'autres aspects du package salarial. Et donc, moi, je suis ingénieur aussi. Désolé, donc je suis ingénieur civil. Et ça fait 18 ans que je fais partie de la même entreprise qui a commencé toute petite. Il y a une soixantaine de personnes avec des bureaux dans différents pays, à Bruxelles, à Paris et en Angleterre aussi. Et l'entreprise a été rachetée il y a quelques années. Et malheureusement, le nouveau management a un style de management assez particulier qui met beaucoup de pression. Et le résultat, en tout cas dans le bureau en Angleterre, c'est qu'il y a eu des démissions en cascade. Alors, la pression elle est aussi mise sur l'équipe à Bruxelles, mais en fait, il n'y a quasiment pas eu de départ. Et en fait, la raison principale, c'est que les personnes s'aiment vraiment les autres, sont redevables les uns envers les autres. Et il y a vraiment cette notion d'amitié, là aussi, qu'on n'associe pas forcément avec le travail, qu'on ressent vraiment. Et c'est une amitié réelle, pas juste autour de quelques activités de team building ou pendant qu'on va boire des verres. Il y a vraiment deux questions qui sont essentielles dans la relation avec mes collègues. C'est comment vas-tu, mais réellement, juste la question bateau qu'on pose, et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et cela porte du fruit. Il y a quelques années, j'ai eu un syndrome vestibulaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est un rhume de l'oreille interne. Donc c'est très impressionnant parce qu'on n'arrive plus à marcher droit. Donc quand c'est arrivé le matin, il y a un collègue qui m'a amené aux urgences. Et donc c'était pas grave du tout. Et par contre, tous les collègues sans exception m'ont envoyé un petit message lorsqu'ils ne me voyaient pas revenir parce que aux urgences ça prend toujours un peu de temps. Donc il y a vraiment des fruits et des bénédictions à chaque fois. Le troisième point, c'est l'amour pour l'étranger. Et quand je parle de l'étranger ici, c'est des personnes qui sont différentes ou laissées pour compte. Dans Deutéronome 10:19, il est dit « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. » Dieu s'adressait au peuple d'Israël. Et là, j'ai deux exemples. Il y a quelques années, chaque vendredi soir, avec une équipe de la Croix-Rouge, on rendait visite aux sans-abri. Alors, ça paraît bizarre de dire rendre visite aux sans-abri, mais donc en fait, on faisait tour de la ville de Bruxelles pour aller voir les sans-abri et passer du temps avec eux, parce qu'ils avaient vraiment besoin d'attention et de chaleur humaine. Et cela m'a vraiment aidé à faire grandir mon amour pour les autres, parce que on voit vraiment des cheminements très difficiles, des personnes qui avaient tout pour avoir une belle vie et qui sont vraiment tombées, qui ont perdu ce qui est quand même un des biens les plus précieux, c'est avoir un toit au-dessus de soi. L'autre exemple, c'est il y a quelques années, notamment Ginny, la femme de Stéphane, et Stéphane faisait partie de l'équipe aussi. On a lancé une initiative qui s'appelle Welcome Boxes, qui a d'abord été lancée en Angleterre, qui est d'accueillir les réfugiés. Donc d'accueillir, c'est en fait vraiment de leur dire la bienvenue et d'avoir vraiment une relation d'amitié et de confiance qui se met en place. Alors les réfugiés, bon, sont, en tout cas à Bruxelles, quand même énormément de musulmans, et dans les familles que nous connaissons, ce sont uniquement des musulmans, principalement syriens ou afghans. Et on passe vraiment, enfin, il y a vraiment une confiance maintenant, notamment avec deux familles qui a été mise en place. On les a aidés pour le déménagement, pour Stéphane a aidé un des pères de famille à passer le permis, enfin, bon, était conducteur pour l'assister. Et dans la famille afghane, Majidi notamment a fait beaucoup d'efforts, on a prié beaucoup aussi, parce que la sœur de la femme de cette famille était encore en Afghanistan au moment où les talibans sont revenus, et elle était policière. Donc autrement dit, ça, pour les talibans, ça ne passe pas. Donc elle a réussi à s'enfuir, elle est arrivée il y a quelques mois, après de très longs moments en Belgique. Donc, merci Seigneur. Et on peut partager la parole avec eux, on prie pour eux, ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais voilà, ce sont vraiment des amis, ils nous invitent régulièrement, et en général, quand on va là-bas, il ne faut pas manger pendant 2 jours avant, parce que vraiment, ils nous bénissent. Donc on voit vraiment toutes les bénédictions qu'il peut y avoir. Et le quatrième aspect, bien sûr, je vais finir par là, c'est l'Église. Alors, oui, s'aimer les uns les autres, c'est bien sûr essentiel. Alors, je fais partie de l'équipe pastorale de notre église à Bruxelles. Et prendre soin des brebis peut prendre différentes formes. Mais l'aide pratique est quand même importante. Et là aussi, les formes sont très variées. Je vais en citer quelques-unes. Ouvrir sa maison, faire le taxi, offrir de ramener les personnes, parce que tout le monde à Bruxelles n'a pas une voiture, et puis bon, il y a certaines zones qui sont moins desservies en transport en commun, surtout le soir. Amener des repas, faire des courses pour les personnes malades, prendre des nouvelles, et pas uniquement par le moyen d'un message rapide, garder les enfants pour permettre à des parents, et puis surtout à des pères ou mères seules, il y en a quelques-uns dans notre église aussi, leur permet de pouvoir profiter de la communion fraternelle, aider à faire les devoirs, des enfants, bien sûr prier. Et donc tout cela, oui, on le fait avec générosité, donner avec générosité, surtout de son temps. Hein. Donc je parle ici volontairement pas d'argent, mais de son temps. Et si on n'a pas cet amour pour les autres, on va très vite s'épuiser. Donc voilà, ce sont des expériences assez différentes, mais à chaque fois, ça part de notre attitude de cœur. Et le point commun, à chaque fois, c'est le développement de relations d'amitié et de confiance. Même, oui, au travail aussi, même avec des personnes qui sont très différentes, à l'église bien sûr, avec nos voisins. Et puis les bénédictions reçues, elles sont innombrables. Moi, j'en ai ici cité que quelques-unes, mais oui, je vous encourage vraiment à saisir toutes les opportunités pour démontrer cet amour. Et voilà, j'espère que ces quelques témoignages vous auront encouragé. Et je vais repasser la parole à Stéphane.
Merci Christophe. Je trouvais que c'était bien que ce soit lui qui donne les exemples. Franchement, si vous venez à Bruxelles et vous venez vous installer, je suis sûr que Christophe vous aidera à vous installer. C'est clair. Donc voilà. Non. Je vais essayer de terminer ici. Mais je voulais faire quand même quelque chose en revenant à notre spirale. Donc vous avez vu, on a vu demeurer en Jésus. Donc ça, c'est ce que Jésus nous demande de faire dans Jean 15:1 hein, à 11. Et puis alors, ça fait grandir en fait notre amour pour l'Église. Et puis ensuite, ça fait grandir notre amour en fait notre amour pour l'Église. Et ce que je voulais dire, en fait, ici, il faut faire attention. Il y a quand même une petite chose à bien retenir et d'éviter un déséquilibre. C'est que, imaginons, en fait, que d'ici 6 mois, vous avez tous fait, en fait, demeurer en Christ. Vous êtes vraiment, en fait, au taquet. Vous entendez Jésus vous parler. Votre amour pour Jésus, en fait, grandit encore. Je sais que vous avez déjà de l'amour pour Jésus, mais ça a encore grandi. Et puis alors, vous avez, en fait, un grand amour les uns pour les autres. Et tout se passe bien dans l'église, en fait c'est chouette parce qu'on s'aime les uns les autres, on est très contents. Et puis alors on se dit, ah oh, ben ça c'est quand même bien. Donc on va encore revenir, on va faire un shortcut et on va demeurer en Jésus encore. Et on oublie en fait de se tourner vers l'extérieur. Parce que ça peut arriver. Quand on est vraiment très 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 confortable dans une église, en fait ça peut arriver. Et on revient à demeurer en Jésus en fait. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ça peut devenir un peu, comment dire ça, juste tourner vers l'intérieur, on ne grandit plus, et puis après, en fait, l'amour, en fait, diminue. Et parce que Jésus, en fait, nous appelle quand même à... Et notre amour pour les perdus n'est pas là, donc il n'y a pas de miracle ni de guérison, et puis alors il n'y a pas d'église renouvelée, il n'y a pas de conversion. Donc on oublie, en fait, les autres choses. Et d'ailleurs, si on ne porte que notre regard vers l'intérieur, on va vite se rendre compte, en fait, qu'il y a des choses, parce qu'on est les uns sur les autres, il y a des choses qui vont se passer, le fonctionnement de l'église, en fait, ne va plus marcher aussi bien. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu, je sais pas si vous l'avez déjà vécu dans une église, mais moi, j'ai déjà vécu, en fait, à l'échelle des petits groupes. En fait, ce que j'ai déjà vu, parce qu'on était dirigeant de petits groupes dans une église à Derby avec ma femme avant de venir à Bruxelles, c'est que les petits groupes, en fait, qui sont les plus durables, qui durent dans le temps, sont ceux qui sont tournés vers l'extérieur. Si un petit groupe est tourné vers l'intérieur, en fait, après un certain temps, le petit groupe va mourir et ne va pas continuer. Nous autres, on avait l'habitude, en fait, en Angleterre, on avait un petit groupe tourné vers l'extérieur. Et notre petit groupe se multipliait toutes les années. On était 10 au départ, et puis alors un an après, on était 20. Et puis alors on se multipliait, et puis un deuxième petit groupe, et un troisième petit groupe. Et c'était vraiment comme ça qu'on voyait la vie, en fait, continuer. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas se tourner vers l'intérieur. Alors j'ai un petit exercice à vous faire faire. Vous êtes toujours avec moi ? Vous avez encore 5 minutes pour moi ? Ouais ? Donc, j'ai un petit exercice à vous faire faire. J'aimerais bien appeler 8 d'entre vous. C'est une image en fait qu'Alain Pascal, si vous connaissez Alain Pascal des temps, vous n'avez peut-être pas encore rencontré, qui fait partie aussi de Destinée Noire, nous avait donné il y a 6 mois dans notre église. Et j'aimerais bien vous donner la même image. Donc s'il y a 8 personnes volontaires qui veulent venir ici devant, venez vous mettre ici. Ouais. Voilà, 1, allez, 2... Peut-être Maryse et Bruno, vous pouvez venir aussi, parce que j'ai besoin d'un couple aussi. Ouais. Jean-Luc vient. Ouais, Eric. Allez. Voilà, on a 7. Allez, encore une dernière personne. Manon, tu veux venir? Ouais. Eh bien. Alors, je vais vous inviter, en fait, à vous donner la main et faire un cercle, en fait, ici. Ouais. Tout le monde voit le cercle qui est fait, là-devant? Ouais. Voilà. Alors ça, c'est l'image d'une église. Une église, en fait, qui est tournée sur elle-même. Ils se regardent les uns les autres. Et donc, c'est une belle église, en fait. Il y a l'union, tout le monde s'aime bien, tout va bien. Et puis alors, mais il y a des choses, en fait, qui se passent. Et puis alors, on regarde un petit peu son voisin. On dit, oh, mais t'as vu, celui-là, il fait ça. Et puis alors, Maryse et Bruno, qui sont en fait en couple, entre eux, ils vont beaucoup discuter. Parce qu'ils se voient souvent, donc leurs centres d'intérêt sont bien, ils vont être d'accord, et puis, mais par contre, la personne là en bas va pas entendre, et puis alors, il y a des choses qui se passent. Et en plus, on voit que le gâteau, qui est au milieu, est tout petit. Hein, donc tout le monde, en fait, se bat pour avoir sa place dans ce petit gâteau, et c'est ce qu'on appelle, en fait, une église pastorale. C'est une église qui va grandir, parce que, en fait, c'est sympa d'être là, souvent avec des chrétiens, en fait, qui viennent les rejoindre, mais qui va pas, en fait, se multiplier. Alors, ça, c'est l'église pastorale. Mais maintenant, je vais vous inviter, en fait, à vous toujours tenir les mains, mais vous tourner dans l'autre sens, à l'extérieur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'église apostolique, qui est tournée, en fait, vers le monde extérieur. On est toujours unis, on se tient les mains, on est toujours unis, mais on regarde chacun, en fait, vers l'extérieur, vers ce qui se passe. Et vous allez me dire, mais ça va être difficile de communiquer, il y aura moins de communication entre tout le monde. Ben non, c'est pas vrai. Parce que quand Bruno va voir ce qui se passe là-bas, il va parler à Maryse à côté de lui. Maryse va le passer en fait juste à côté, et puis il va prévenir en fait Jean-Luc qui est là derrière. Oh, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il faut que vous priez en fait pour ce qui se passe là-bas. Puis Jean-Luc qui va voir quelque chose qui se passe là-bas. Ah oui, j'aimerais bien la prière et le soutien de mes autres. Il va parler avec sa voisine, je ne sais pas comment tu t'appelles, et puis il va parler à l'autre voisine. Et puis chacun va prier les uns sur les autres. Et vous voyez le gâteau, il est beaucoup plus grand. Donc on a tendance à moins se marcher sur les pieds. Et ce qui se passe avec des églises comme cela, elles se multiplient. Elles ne grandissent pas, elles se multiplient. C'est l'image que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est vraiment cette image de l'église qui s'aime les uns les autres, mais tournée vers le monde extérieur. Ça va, ça vous parle? Ouais? Ah. Ouais, il y a le gâteau. Le gâteau, il est à l'extérieur, il y a plein de choses, c'est tout, c'est le monde extérieur. Ah. Et vous savez pourquoi j'ai pensé à cette image-là? Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, ça vous dit quelque chose? J'ai trouvé en fait sur votre site parce que je me suis dit je vais aller voir en fait votre vision et je me suis dit ça m'a fait vraiment penser à cette image et je me suis dit je vous invite vraiment, tournez-vous les extérieurs. Alors c'est le moment de conclure ce matin, je termine. Vraiment, ma prière, enfin mon souhait, si vous retenez une chose aujourd'hui, c'est faisons une priorité de passer du temps dans la présence de Dieu et de Jésus. Et vraiment, prions que Dieu fasse grandir dans nos cœurs pour aimer notre prochain, que ce soit notre famille biologique, nos frères et sœurs de l'Église, mais aussi nos voisins, nos collègues, notre boss, notre président, nous c'est un roi, mais vous c'est un président. Et vraiment, comme je disais, c'est la compassion de Dieu, de Jésus, pour les foules, qui est vraiment le driver derrière son désir de nous guérir et de nous restaurer. Et ça doit vraiment être la même chose, en fait, en tant qu'Église, aujourd'hui. Vraiment, prions que Dieu fasse grandir notre compassion pour les perdus. C'est une prière que je fais souvent. Dieu, fais grandir mon cœur. Et vraiment, prions que notre amour pour Dieu grandisse. Et pour Jésus grandisse. Prions que notre amour pour nos frères et sœurs grandisse. car l'amour en fait couvre beaucoup de fautes. Prions pour que l'amour pour nos voisins grandisse. Prions pour que l'amour pour nos collègues et même notre boss grandisse. C'est vraiment ma prière pour vous ce matin.